Ce premier enregistrement n'est pas pour proprement parler un exercice, mais plutôt un temps où je vais poser les bases de la respiration et de surtout comment fonctionne la respiration et comment on peut agir sur elle pour agir plus globalement sur notre état corporel et notre état mental. Avant de parler de respiration, ça va sûrement vous faire sourire, mais je vais vous parler de la voiture, de votre voiture. Votre voiture, elle roule. Enfin, quand tout va bien, votre voiture, elle roule. Et pour la faire fonctionner, nous avons deux pédales principales, un accélérateur et un frein. Une pédale qui nous permet de mettre la voiture en mouvement, de la mettre en action. Et une pédale qui nous permet de ralentir et de la remettre à l'arrêt. Alors pourquoi je vous parle de voiture et de pédale d'accélérateur ou de frein? C'est parce que je vais faire le parallèle avec notre corps. Notre corps, il a ce qu'on appelle un système nerveux autonome. En gros, c'est le grand chef d'orchestre du corps. Le grand chef d'orchestre qui permet de donner toutes les directives pour respirer, pour réguler la température, pour digérer, pour faire fonctionner tous nos organes, pour faire fonctionner notre cerveau, pour faire fonctionner tout ce qui a besoin d'être régulé dans le corps pour qu'il fonctionne le plus correctement possible. Et bien ce système nerveux autonome, il a aussi un accélérateur et un frein. Il a un axe qui s'appelle l'axe sympathique qui régit toutes les fonctions de mise en action et d'accélération du corps. Et il a un axe parasympathique qui régit à l'inverse toutes les fonctions de ralentissement et de récupération du corps. Vous voyez où je veux en venir là avec ma métaphore de la voiture et de son accélérateur et son frein. Donc dans la vie de tous les jours, il y a des moments où on a besoin d'être boosté, c'est les fonctions d'accélération qui prennent le dessus. Et puis, il y a des moments où on a besoin de se mettre au repos et de récupérer. C'est les fonctions de freinage, de ralentissement qui prennent le dessus. Et tout va bien tant que ces deux axes, sympathiques et parasympathiques, sont stimulés de façon équitable. Un peu comme la voiture. Si on passe notre temps à accélérer, ça va finir par poser un problème. Et si on passe notre temps à ralentir, eh ben, on finit par être à l'arrêt et ça va finir par poser un problème. Et ben dans le corps, c'est pareil. Si vous passez votre temps à accélérer, ça va finir par poser des problèmes. Et inversement, quand vous êtes complètement au ralenti tout le temps, vous n'êtes pas dans un fonctionnement très efficace et très efficient du corps. Tout va bien quand on fait fonctionner les deux axes de façon équitable. Quand on fait fonctionner les deux axes de façon équitable, on est dans un état qui s'appelle l'homéostasie, c'est-à-dire que tout est à l'équilibre. Alors maintenant, vous me direz le lien avec la respiration. Quel est le lien avec la respiration? Tout d'abord, la respiration, elle vient stimuler à chaque cycle respiratoire, les deux axes, le sympathique et le parasympathique. Quand on inspire, ce sont tous les processus du sympathique, tous les processus de mise en action qui sont stimulés. Et quand on expire, ce sont tous les processus du parasympathique, les processus de récupération et de ralentissement qui sont stimulés. Donc, au quotidien, dans la vie de tous les jours, quand on inspire et qu'on souffle à peu près de façon équitable, on va être, notamment par la respiration, sur quelque chose d'équilibrant. Il y a autant de temps pour inspirer, que de temps pour souffler. Et du coup, notre respiration est plutôt régulière et sa contribution à l'homéostasie est plutôt neutre. Alors, c'est pas si simple que ça, hein, parce que ça dépend de là également où se place la respiration. Si la respiration est que thoracique, très très haute, on va être plutôt sur une accélération du corps, une stimulation du corps. Et si la respiration est plutôt basse, comme notamment la nuit, plutôt abdominale, on va être sur les processus de récupération. Donc au-delà du rythme respiratoire, il y a aussi où se place la respiration. Pour l'instant, je vais m'attacher qu'au rythme de la respiration. La respiration, c'est la seule fonction autonome du corps. Elle se fait toute seule, hein, sans qu'on y pense, heureusement, parce que sinon, ça nous accaparerait beaucoup de temps dans notre journée. Donc la majorité du temps, elle se fait toute seule. Mais c'est la seule fonction autonome du corps qu'on peut décider de modifier volontairement. On peut décider de retenir l'air quelques secondes. On peut décider d'inspirer très très fort, largement, pendant quelques secondes. Ou d'inspirer très vite. Ou d'inspirer très lentement. De souffler très vite, de souffler très lentement. La respiration, on peut la moduler à volonté. Alors là aussi, je mets des petits bémols. Ça vient avec l'entraînement, hein. Vous pouvez avoir une respiration un peu dysfonctionnelle que vous n'arrivez pas à allonger ou à amplifier parce que les muscles respiratoires ont pris des mauvaises habitudes pour respirer. Mais ça se rééduque, entre guillemets. Mais majoritairement, on peut décider de comment on va respirer. Dans le cas qui nous intéresse, là, c'est comment, avec la respiration, je vais agir sur mon accélérateur et mon frein dans mon corps. J'ai un levier avec la respiration. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque fois qu'on inspire, on active le corps. Donc, si je privilégie des inspirations longues et profondes, au détriment d'expirations plutôt courtes, je vais booster mon corps. À l'inverse, si je privilégie des expirations profondes et lentes, longues, au détriment d'une inspire plutôt courte, je vais apaiser le corps. Je vais déclencher les mécanismes de récupération du corps. Du coup, quand j'ai envie de m'apaiser, quand je sens que le stress s'est installé, qu'une émotion très forte est là, je vais utiliser l'expiration. On va inspirer normalement et souffler de façon lente et continue pour favoriser tous les processus de ralentissement. Et inversement, si je veux me booster, je vais aller chercher des inspires plus longues pour favoriser les processus de dynamisation. Ça, c'est pour le rythme de la respiration. Ensuite, comme je le disais, une respiration plutôt thoracique, sous-claviculaire, va nous permettre de nous booster. Si je m'apprête à monter un escalier 4 à 4, le corps va tout seul respirer très très haut en sous-claviculaire pour se booster. Il sait faire, il va chercher cette respiration. Inversement, si je suis cool, allongé sur mon canapé, le corps va aller tout seul chercher une respiration abdominale au niveau du ventre. Une respiration de récupération. Et ça, ce placement de la respiration, il peut également se faire à volonté. On peut décider d'amener la respiration la plus basse possible pour aller s'apaiser et récupérer. Et inversement, on peut décider d'amener une respiration très très haute pour se booster ou se dynamiser. Alors là aussi, tout dépend de votre histoire. Votre cage thoracique, elle peut avoir perdu de la mobilité, la fatigue, la gestion émotionnelle, la mauvaise posture. Tout ça, ça peut avoir contribué à placer une respiration qu'à un seul endroit. Mais de toute façon, avec les exercices respiratoires, on arrive à récupérer de la mobilité à la fois diaphragmatique et thoracique. On arrive à faire retravailler tous les muscles de l'architecture de la respiration pour retrouver une respiration opérante, qu'elle soit haute, qu'elle soit médiane ou qu'elle soit basse. Voilà pour cette première capsule autour de la respiration qui donne quelques explications brèves et simplifiées, bien sûr, du processus respiratoire et de comment on peut agir dessus en modifiant notre respiration.